Merci Adrien Taufollet, on vous retrouve à 16h pour un nouveau Flash.
Explorer de nouveaux mondes étranges, découvrir de nouvelles vies et au mépris du danger, avancer vers l'inconnu.
Se retrouver en combinaison de survie, en plein océan Antarctique, dans une houle de 8 mètres, sur le pont d'un bateau, avec pour ordre de barrer la route à un navire bien plus gros, engagé dans une chasse à la baleine illégale. Voir le monstre d'acier se rapprocher à vitesse grand V, réaliser que sa vie ne tient plus qu'à un fil, et se dire que l'on est exactement là où l'on a envie d'être. Voilà ce qu'a vécu Lamia Essem Lali lors de sa première opération en Antarctique, il y a une quinzaine d'années, à bord d'un bateau de Sea Shepherd, l'organisation fondée par l'activiste écologiste controversé Paul Watson. Depuis ce jour, Lamia Essem Lali n'a jamais cessé de combattre à ses côtés pour la préservation des océans. Elle préside l'antenne française de Sea Shepherd qu'elle a créée, et régulièrement, à bord des bateaux de l'ONG arborant un drapeau noir avec une tête de mort, l'écologiste pirate part en opération sur le terrain pour chasser les braconniers au large de l'Afrique de l'Ouest, libérer des thons rouges pris dans les filets dans les eaux libyennes ou encore voler au secours de dauphins aux îles Féroé. Ces missions sont-elles risquées? En quoi consistent-elles exactement? C'est ce que nous allons voir Lamia Essem Lali accoste dans notre bivouac cet après-midi. Et en fin d'émission, nous irons nous promener dans le Cotentin avec le photographe Arnaud Guérin. Voilà pour le programme de cette émission, réalisé par Hélène Couilloum-Jean et préparé par Claire Tesser, avec à la technique Julien Dumont. Soyez les bienvenus dans notre bivouac.
France Inter. Le temps d'un bivouac. Daniel Fievé.
C'est un abordage à la hussarde en plein milieu de l'océan Antarctique. Le choc est violent. Le navire noir des militants écologistes vient d'éperonner un baleinier japonais. Bilan de l'affrontement, un harpon endommagé, une coque abîmée du côté japonais, deux blessés légers chez les écologistes. Voici le dernier rebondissement d'une course-poursuite qui se renouvelle chaque année. Depuis 5 ans, l'organisation écologiste Sea Shepherd traque les navires japonais qui chassent la baleine.
Extrait d'un reportage du journal de France 2 en 2009. Bonjour Lamia Essem Lali.
Bonjour.
Vous avez participé à plusieurs reprises à ces missions de terrain en Antarctique. Vous êtes allé à l'affrontement avec ces navires japonais en train de pêcher des baleines. Ils étaient en train de pratiquer une chasse, une pêche illégale à ce moment-là.
Alors, tout à fait, l'Antarctique est un sanctuaire international où les baleines sont en théorie protégées. Le Japon utilisait un prétexte scientifique pour chasser des baleines. Donc il s'était auto-octroyé un quota de 1035 baleines par an, ce qui est énorme. Et donc pendant de très nombreuses années, Sea Shepherd s'est opposé à la chasse baleinière en Antarctique, jusqu'à ce que le Japon renonce à y aller d'ailleurs.
Ouais, le but à ce moment-là des navires de Sea Shepherd, c'était de ralentir au maximum pour que cette chasse à la baleine devienne absolument pas rentable.
Alors, notre objectif ultime, c'était effectivement de les empêcher de tuer le plus de baleines possible, parce que ça coûte extrêmement cher pour eux. Pour rentabiliser la chasse, il fallait qu'ils tuent au moins 700 baleines. Donc en notre présence, ils n'ont jamais atteint ce nombre-là. Et l'objectif, c'était de trouver le navire-usine, le Nishin Maru, qui fait 8000 tonnes, parce que il y a plusieurs baleiniers qui cherchent les baleines, qui les harponnent et qui les ramènent au navire-usine où elles sont dépecées. Si on empêche les baleines d'être hissées sur le navire-usine, par la rampe arrière, ça paralyse toute l'opération de pêche parce que si les baleines ne sont pas dépecées et congelées dans les 48 heures, elles deviennent complètement impropres à la consommation.
On recroisera la route de ce Nishin Maru un peu plus tard dans l'émission. Ça a marché ces missions puisque aujourd'hui le Japon ne pêche plus en Antarctique.
Le Japon a effectivement finalement renoncé à chasser en Antarctique. Il continue à chasser dans ses eaux territoriales avec un quota de 235 baleines. Mais la grande victoire, c'est que aujourd'hui, le sanctuaire baleinier antarctique est un véritable sanctuaire pour les baleines en tout cas. Et aujourd'hui, ça n'est même plus le Japon qui tue le plus de baleines. C'est la Norvège avec plus de 700 baleines.
Alors vous allez nous raconter les actions que vous menez sur le terrain et puis pendant ces missions, la vie à bord des navires de Sea Shepherd que certains qualifient de bateaux pirates. Mais d'abord, revenons sur votre cheminement à vous, Lamia Essem Lali. Vous avez rejoint Sea Shepherd en 2005 après avoir rencontré le fondateur de cette ONG, Paul Watson. Comment s'est passée votre rencontre?
Alors je l'ai rencontré en janvier 2005. Il était de passage à Paris, très peu connu à l'époque. Il a fait une petite conférence On était une trentaine de personnes. Et c'est vrai que ce jour-là, moi, j'ai entendu un discours qui collait exactement à mon état d'esprit, à la façon dont je concevais aussi l'engagement et l'activisme, avec une éthique qui était la mienne, qui est le respect de la vie, et en même temps un esprit combatif et pas attentiste.
Le message que j'aimerais faire passer, en particulier aux jeunes, c'est celui que je porte depuis des années. Si l'océan meurt, nous mourons. De ce fait, nous devons faire tout ce que nous pouvons pour protéger ce support de vie de cette planète. L'océan produit 80% de l'oxygène que nous respirons. Il régule et contrôle le climat. Les gens sont très focalisés sur les événements climatiques, mais c'est de là qu'il faut partir, protéger la diversité dans la mer.
If people are really, really concerned about climate change and addressing that, this is where we have to start, which is protecting diversity in the sea. You know, the Earth is a spaceship, and the ocean is the life.
La Terre est comme une navette spatiale, et l'océan et la mer sont le système qui assure la vie de cette navette. Elle est conduite par un équipage fait des créatures qui vivent dans la mer, qui produit l'oxygène et maintient la biodiversité et assure l'intégrité de notre écosystème. Et on est en train de tuer cet équipage. Il faut préserver ces sentinelles qui nous font vivre sur cette planète. L'océan est à la base de notre système de vie.
Lamia Essem Lali, vous étiez déjà sensible à la protection animale, à la préservation de l'environnement avant de rencontrer Paul Watson. Mais vous l'écrivez dans votre ouvrage Paul Watson, Sea Shepherd, le combat d'une vie, paru chez HarperCollins, réédité en poche tout récemment. Vous dites que votre rencontre avec Paul Watson a littéralement changé votre vie.
En fait, on est en 2005, hein, juste 2005. Après cette fameuse conférence à laquelle j'ai assisté. Donc moi, je vais le voir à la fin de la conférence et je lui dis, en fait, ce que vous faites me parle énormément. Moi, je pense que j'ai trouvé chaussure à mon pied avec Sea Shepherd. Comment est-ce que je vous rejoins? Et il m'a répondu tout simplement, écoute, si tu as du temps de disponible et si tu es prête à risquer ta vie pour sauver une baleine, postule et viens à bord.
Et vous répondez quoi à cette question? C'est très concret pour vous à ce moment-là? Es-tu prêt à risquer ta vie pour une baleine?
En tout cas, la réponse vient assez spontanément et naturellement, et la réponse est oui. Et j'ai eu le baptême du feu quelques mois plus tard, et ça s'est confirmé. Pourtant, j'avais jamais vu de baleine au moment où il m'a posé cette question, et j'avais l'intime conviction, en tout cas, que j'étais prête à prendre ces risques.
Ouais. Alors, 6 mois après votre rencontre avec Paul Watson, vous embarquez d'abord pour une mission anti-braconnage aux Galapagos, et puis l'hiver suivant, vous séchiez vos partiels à la fac, hein, pour votre première opération en Antarctique contre les baleiniers japonais. À cette époque, vous aviez à peu près 25 ans, vous leur avez dit quoi à vos profs pour quitter la fac et pour aller guerroyer dans l'Antarctique?
Et j'ai expliqué à mes professeurs que j'avais l'opportunité de m'engager dans une mission contre la chasse baleinière en Antarctique avec une ONG et que du coup j'allais pas pouvoir être présente à mes partiels.
Ils en ont pensé quoi?
Ils ont été extrêmement compréhensifs et même encourageants. Je me souviens qu'ils avaient même réarrangé un TP, un travaux pratiques, pour que je puisse le faire avant de partir parce que je n'aurais pas pu le faire au rattrapage. Mmh. Et donc j'ai eu mes examens au rattrapage en juin suivant, mais j'ai été vraiment agréablement surprise de voir que les professeurs étaient même, je pense, un peu admiratifs de mon engagement et en tout cas très encourageants.
Alors vous embarquez avec 45 personnes pour participer à cette opération. Quel est le profil de l'équipage? Donc on était en 2006 cette fois. Quel est le profil à bord du bateau?
Alors sur certains postes clés, il faut absolument des professionnels de la navigation, donc ce qui est capitaine, chef mécano, voilà. Mais sinon pour le reste, il y a beaucoup de militants qui ne sont pas forcément aguerris, mais qui apprennent sur le tas. C'était mon cas d'ailleurs. Mmh. Moi, je ne connaissais strictement rien à la navigation. J'ai été quartier maître et j'ai appris sur le tas avec les officiers de quart qui étaient avec moi.
Dans votre ouvrage, vous dites, ça va du 100% vegan artiste tatoueur à l'omnivore courtier en bourse qui a tout plaqué. C'est le genre de grand écart à bord.
C'est vraiment très très éclectique. Il y a des profils tellement différents. On était 23 nationalités différentes avec des catégories socio-professionnelles très différentes et des profils et des histoires très différentes. Et j'ai beaucoup apprécié ce patchwork et de voir qu'on arrivait quand même à rallier des gens tellement différents à une cause commune qui était la défense de l'océan.
Et là, avant même de voir les premiers baleiniers de près, vous voyez les baleines. Quel souvenir vous gardez de ces images, de ces baleines que vous apercevez au loin en Antarctique?
Effectivement, les premières baleines que j'ai vues, finalement, on a d'abord vu leur souffle. C'était magique, en fait, quand on entend les gens parler de leur rencontre avec des baleines, même dans un contexte plus classique, il y a toujours une part de magie, hein, d'enchantement. Et c'est vrai que quand on les voit pour la première fois dans un contexte où on sait qu'elles sont traquées par des baleiniers, ça décuple encore l'émotion.
Alors là, au lendemain de Noël, sur cet océan antarctique, loin de tout, vous tombez sur le fameux Nishimaru, hein, ce gigantesque navire abattoir japonais. Décrivez-nous ce bateau qui est vraiment un monstre d'acier. Hein.
Oui, alors c'est un abattoir flottant, c'est un ancien super trawler, donc les chalutiers usine énorme qui fait 8000 tonnes. Et c'est vrai que bon, on l'avait beaucoup vu en photo, en vidéo, et là de le voir en vrai, je me souviens que ça m'avait fait vraiment, c'était vraiment étrange. Et puis surtout, on l'a trouvé un jour de tempête, donc on était avec une houle de 8 mètres de haut, c'était très très impressionnant.
Et ça va être votre baptême du feu. Ouais. Hein. Paul Watson, le capitaine, décide de barrer la route du Nishimaru.
Donc nous, on est à bord de notre vieux Farley Mowat. C'était un vieux navire de pêche qui faisait office de coquille de noix comparé au Nishimaru. Et effectivement, Paul nous dit, bon, on lui barre la route. Hein, voilà, on est là pour ça, donc c'est ce qu'on va faire. Et le navire usine nous fonce dessus avec des messages dans la sirène qui disent « dégagez » entre et « sinon on vous fonce dessus ». Et il est hors de question qu'on bouge. Paul nous dit « mais si on bouge, en fait, autant rentrer chez nous ». Ça veut dire qu'en fait, dès qu'on a la moindre pression, on recule et c'est pas envisageable. Et donc là, très clairement, on nous annonce que la collision va se faire dans 2 minutes. Donc on est tous en combinaison de survie. Et là, clairement, on se dit, bon, bah, on va couler à pic, hein, de toute façon, c'était clair. Et là, oui, là, on se dit, bon, en fait, là, c'est la fin. C'est la fin. Je me souviens m'être dit, ah ouais, quand même, signer une pétition, c'est plus simple et c'est moins engageant.
Là, prend, la phrase de Paul Watson prend tout son sens. Êtes-vous prête à mourir pour une baleine?
Alors là, clairement, pour nous tous, on se dit, c'est la fin. Et donc, ce qui m'a marqué et rassuré aussi sur moi-même, c'est que même si je me suis vue mourir, on s'est tous vus mourir, et même si j'ai eu peur, j'étais contente d'être là. Et à aucun moment je me suis dit, mais dans quelle galère je me suis embarquée, pas du tout. J'étais vraiment contente d'être là.
Comment ça s'est fini?
Eh ben, puisque je suis là pour le raconter, ouais. C'est que ça s'est bien fini, puisque à la dernière minute, il a viré de bord. Ouais.
Il vous a testé, en fait.
Il nous a testé et ils ont compris que quand on dit qu'on est prêt à risquer nos vies pour sauver des baleines, ça n'est pas un slogan, ça n'est pas de la rhétorique. C'est vrai, on va au bout.
Cette première opération a été pour vous le début d'une histoire qui se poursuit encore aujourd'hui. Un combat fait d'aventures humaines et d'expériences fortes que vous allez nous raconter cet après-midi. Lamia Essemlali nous emmène chasser les braconniers sur les océans du monde. Le temps d'un bivouac sur France Inter.
They used to be lost, oil wasted on the oceans and upon our seas, fish full of mercury. Oh, mercy, mercy me. Things ain't what they used to be lost. Radiation underground and in the sky. Animals and birds who live nearby all the lives. Oh, mercy, mercy me. All things and what they used to be. What about this overcrowded land? How much more we use from man? Can't you stand that? Oh,
c'était Merci Merci, The Ecology sur France Inter, le temps d'un bivouac.
Deux fois condamné à la réclusion criminelle à perpétuité au Portugal, au Canada, au Japon et aux États-Unis. Sa tête a été mise sous contrat de mort à Taïwan et en Norvège. Il a coulé 8 navires baleiniers, lacéré des milliers de kilomètres de filets dérivants et détruit à l'explosif une raffinerie d'huile de baleine. Le capitaine Paul Watson s'est spécialisé dans l'éperonnage des navires baleiniers. Ici, un bateau japonais aura ses chaluts tranchés par l'étrave de Watson, qui ne craint pas de percuter un navire de guerre norvégien. Le pont du bateau de Watson est recouvert de barbelés anti-commando. Mais en 20 ans de cette guerre, il n'a jamais blessé personne et le seul canon de son bord crache bien autre chose que des obus.
Oh, that's a water cannon.
Pour nous défendre, nous utilisons ce canon à eau qui envoie de la crème pâtissière. Nous lançons aussi des tartes.
Voici comment on présentait Paul Watson et l'ONG Sea Shepherd qu'il a fondée dans le JT du soir de France 3 Côte d'Azur en 1997. Lamia Essem Lali, vous êtes aujourd'hui la numéro 2 de l'organisation Sea Shepherd. Paul Watson est votre mentor, vous le dites. Le portrait que l'on vient d'entendre date d'il y a 23 ans. Il y a eu depuis d'autres événements importants que l'on va mentionner dans la vie mouvementée de Paul Watson. Mais déjà cette présentation qui montre bien le côté controversé de Paul Watson. Qu'est-ce qui est juste ou pas dans ce que l'on vient d'entendre?
Oui, alors en fait, il y a la réalité et la façon dont elle est dépeinte. Par exemple, le navire norvégien de la marine, c'est pas Sea Shepherd qui est rentré dedans, c'est lui qui nous est rentré dedans. Enfin, je dis nous, en 97, j'y étais pas. Mais donc, il y a beaucoup de déformations et de légendes urbaines qui circulent. Je me souviens par exemple qu'en 2005, Jean-Christophe Ruffin était passé sur le plateau de Canal+, au Grand Journal, pour la promotion de son livre sur l'écoterrorisme, et il avait décrit Paul Watson comme quelqu'un qui avait tué des gens pour sauver des baleines. Donc il y a beaucoup de choses qui circulent qui sont fausses. Donc ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est que comme on est plus connu, on communique davantage et donc ça permet aussi de trier un peu le vrai du faux.
Ce qui est vrai dans ce qu'on entendait, c'est la tête de Paul Watson est mise à prix.
Alors elle est mise à prix par la mafia taïwanaise, sur la question des ailerons de requins, le trafic d'ailerons de requins, effectivement.
Ouais. Et depuis 2012, donc là c'est après ce que l'on vient d'entendre, Paul Watson est fiché par Interpol. Pour quelle raison ?
Alors en fait, il y a une notice rouge d'Interpol, étrange, parce qu'en parallèle, on travaille beaucoup avec Interpol sur nos campagnes contre la pêche illégale. Mais il est fiché par Interpol suite à un mandat du Japon qui accuse Paul Watson d'avoir demandé à un des membres de son équipage de faire un abordage, donc de monter à bord d'un baleinier. Donc cette personne s'est rétractée par la suite, mais ce mandat continue. C'est le seul mandat dans l'histoire d'Interpol sur la notice rouge qui porte sur une conspiration d'abordage. Ouais. Donc en fait, c'est un outil politique pour traquer les opposants. Clairement.
Dans votre ouvrage, il y a une scène, c'est vraiment digne de James Bond. On a Paul Watson qui est assigné à résidence en Allemagne. Mm-hmm. Nous sommes en 2012. Le Costa Rica demande son extradition sous la pression du Japon.
Ça fait.
Paul Watson sait par une indiscrétion qu'il va bientôt être extradé. Il décide de s'enfuir et c'est là où ça devient du James Bond. Il se grime pour pas qu'on le reconnaisse. Il va prendre un bateau dans un petit port des Pays-Bas pour traverser l'Atlantique, arriver au Canada. Puis là, il va arriver ensuite dans des petites îles désertes de Polynésie. Il est en fuite. À ce moment-là, vous le connaissiez. Vous avez suivi tout ça de près.
Ah bah bien sûr, c'est moi qui ai trouvé le bateau pour qu'il puisse partir. Je me souviens qu'on lui a teint les cheveux parce qu'il m'a appelé pour me dire il y a une nouvelle importante, il faut que tu viennes absolument à Francfort. Donc j'arrive et il me dit on a eu une information de quelqu'un au ministère de la Justice qui m'indique que lundi, quand je vais aller pointé au poste de police, je vais être arrêté et extradé au Costa Rica. Donc il faut que je parte. Voilà, donc très très vite, en toute urgence, on a trouvé un bateau et voilà, on lui a mis une chemise hawaïenne, on lui a teint les cheveux, on lui a rasé la barbe et il a embarqué à bord de ce navire. Et effectivement, il a été donc d'abord au Canada et ensuite il a réussi à rejoindre nos navires pour participer à la mission en Antarctique quand même, au nez et à la barbe des Japonais et d'Interpol. Et ensuite, il a disparu dans les îles du Pacifique. Il a passé une quinzaine de mois en mer avant de réatterrir aux États-Unis avec le soutien à l'époque d'une partie du gouvernement américain qui lui a permis de revenir sur la terre ferme.
Ouais, et puis ensuite, il a aussi reçu l'asile de la France. France. Hein.
Oui, ensuite il est venu en France, donc il a vécu 2 ans en France.
C'était entre 2014 et 2016, et là aussi vous racontez cette scène un peu digne d'un film où vous arrivez en France, vous êtes avec lui à ce moment-là, hein, quand l'avion se pose sur les pistes de l'aéroport français, et il y a toute cette inquiétude, est-ce que on arrive effectivement sur une terre d'accueil, ou est-ce que c'est un piège, est-ce qu'on arrive dans une souricière ?
C'est vrai qu'il y avait cette appréhension tant qu'on n'avait pas passé la frontière, on ne savait pas si c'était un piège ou pas.
Ça n'était pas un piège.
Non.
Il avait des soutiens assez haut placés, des soutiens médiatiques Nicolas Hulot.
Il y avait Nicolas Hulot qui s'était vraiment engagé aussi pour lui. Et puis on était accompagné de son avocat. Et on avait aussi le soutien de l'opinion publique, encore une fois. Arrêter Paul Watson à son arrivée en France sur la base d'un mandat d'arrêt issu par le Japon qui viole le sanctuaire baleinier antarctique, qui est un sanctuaire à l'initiative de la France en plus. Ça aurait fait désordre quand même.
Ouais. Vous, Lamia Essemlali, vous n'avez jamais été inquiétée par la police d'aucune façon ?
Non, j'ai jamais été inquiétée par la police. J'ai été en audition libre en début de semaine parce qu'on a fait une exposition de dauphins morts devant l'Assemblée nationale.
Ici à Paris,
pour alerter l'opinion publique et puis pour interpeller Annick Girardin, la ministre de la Mer. Donc voilà, donc c'était une audition libre pour l'instant. En tout cas, je n'ai jamais été mise en garde à vue, mais certains de nos militants dans mon équipe l'ont été.
Quelles sont vos limites à Sea Shepherd ?
Bah, nos limites, elles sont légales et éthiques, c'est-à-dire que voilà, on ne blesse personne et on s'en tient à la loi. C'est-à-dire que dans cette opération, par exemple pour les dauphins en France, on a un rôle de lanceur d'alerte, c'est-à-dire qu'on n'intervient pas contre les opérations de pêche parce que malheureusement, elles sont légales. Mmh. Ce qu'on veut par contre, c'est que la loi change pour que les espèces protégées soient vraiment protégées.
Alors vous n'agissez que contre des braconniers et des gens hors la loi. Lorsque la législation locale ne correspond pas à votre éthique et autorise des massacres d'animaux marins, il est plus difficile pour Sea Shepherd d'intervenir. Mais vous organisez quand même des missions, comme aux îles Féroé par exemple.
Les dauphins et les baleines pilotes sont d'abord poussés vers la plage par des bateaux. Par dizaines, ils viennent s'échouer sur le rivage où les attendent leurs bourreaux. Des hommes armés de pioches, de couteaux, qui s'élancent vers les cétacés sans défense. C'est le tristement célèbre massacre des îles Féroé. Une tradition depuis le XVIe siècle. À l'époque, les habitants de ces îles reculées en avaient fait la base de leur alimentation. Aujourd'hui, l'argument ne tient plus, mais la tradition perdure, en dépit des conventions internationales. Près de 500 globicéphales ont péri en quelques jours. Comme chaque année, ces images font le tour du monde. Mais inflexible, cet archipel danois continue de résister aux pressions internationales.
Lamia Essemlali, vous avez mené plusieurs campagnes aux îles Féroé. Ce sont des scènes difficilement soutenables.
Alors, moi, j'ai assisté à un seul Grindadrap, c'est le nom de ce massacre, en octobre 2019, où j'étais accompagnée du journaliste Hugo Clément. Avant ça, parce que c'est une mission dans laquelle je suis engagée depuis plus de 10 ans, j'avais jamais assisté à aucun massacre parce que on avait des bateaux qui permettaient de sortir les dauphins des baies de chasse.
Alors, pour bien comprendre, c'est dauphins,
c'est des globicéphales, mais c'est des dauphins.
Globicéphales se laissent guider assez facilement.
C'est assez impressionnant parce que nous, avec un petit bateau de 6 mètres, on arrive à sortir un groupe de 80 dauphins globicéphales.
Mais alors, c'est à double tranchant parce que les habitants des îles Féroé, eux, les guident jusque vers les côtes pour qu'ils s'échouent sur les plages. Et c'est là qu'a lieu le massacre.
Et c'est là que tout le groupe est massacré. Donc, les femelles gestantes, les petits, tout est massacré.
Et donc, vous, tout le jeu, c'était de trouver les groupes de globis, comme vous les appelez, ces globicéphales, pour les emmener au large et qu'ils ne se fassent pas...
Oui, donc on patrouillait tous les jours autour de l'archipel et voilà, il fallait les trouver avant que les pharyngiens les trouvent et les sortir, les accompagner vers le large.
Ouais. Et pourquoi aujourd'hui ça n'est plus possible ?
Alors aujourd'hui ça n'est plus possible parce que le Danemark, qui est pourtant signataire des conventions de protection des mammifères marins et qui interdit dans ses propres eaux territoriales de tuer les dauphins, par contre défend la chasse des dauphins aux îles Féroé. Les îles Féroé sont sous protectorat danois et le Danemark est normalement responsable de ce qui se passe dans les eaux féroïennes. Et il mobilise ses frégates militaires contre nous. Donc nous, on n'est malheureusement pas en mesure de lutter contre plusieurs frégates militaires et ils nous maintiennent à distance.
Que pensent les habitants des îles Féroé, les Féringiens, de vos actions ? Est-ce que vous allez discuter avec eux ? Est-ce qu'il est possible de débattre ?
En fait, c'est assez ambivalent parce que moi, quand j'ai commencé, je m'attendais en arrivant à voir une bande de psychopathes, complètement déconnectée. Alors, je me suis rendu compte qu'en fait, c'était surtout la force de l'habitude. Quand on voit un massacre, un Grindadrap, il y a des enfants de tous âges, en bas âge, qui courent dans le sang. Ils sont élevés au biberon à ça. Et pour eux, c'est quelque chose de normal. Et ils considèrent vraiment les dauphins comme des animaux bêtes, qui ne comprennent même pas ce qui leur arrive. En fait, ils ne connaissent pas du tout ces animaux.
Mais comment êtes-vous perçue, du coup, comme une donneuse de leçons, comme quelqu'un qui ne comprend pas la culture locale ?
Alors, tout dépend de la façon dont on aborde la chose. Moi, en tout cas, sur toutes mes équipes et toutes mes missions, j'ai toujours conservé le dialogue avec eux parce que je voulais leur faire comprendre que on n'était pas là parce qu'on était contre eux, on était là parce que on soutenait les dauphins. Ça n'était pas une guerre contre les pharyngiens. Et donc, il y a quand même un certain dialogue qui s'est noué, pas forcément avec tout le monde au sein de Sea Shepherd. Je sais que ça peut être perçu différemment. Je pense que de part et d'autre, il y a des excès qui peuvent être contre-productifs. Mais moi, en l'occurrence, j'étais assez, j'étais dans une disposition où je pouvais parler avec eux aussi, parce qu'en parallèle, j'avais une équipe qui sortait les dauphins. Et c'est beaucoup plus facile de discuter, d'être ouvert à la discussion quand on sait que, à côté de ça, on est en train de les sauver. C'est plus difficile quand on les voit mourir et qu'on se sent impuissant.
Avec les habitants des îles Féroé, le dialogue est possible. Ça semble beaucoup plus tendu dans le golfe du Mexique, où Sea Shepherd est confronté à des gangs mafieux. Alors, ce que l'on vient d'entendre là, c'est une pierre qui vient briser la vitre de l'un des navires de Sea Shepherd, et puis les cris des assaillants qui sont contents de leur coup. Parfois, ce sont des cocktails Molotov que vos navires reçoivent. Expliquez-nous ce qui se joue dans ce golfe du Mexique avec ces membres de cartels mafieux.
Alors, dans le golfe du Mexique, c'est le dernier endroit où on peut encore trouver des vaquitas, c'est les marsouins du Pacifique qui sont en danger critique d'extinction. Il reste une dizaine d'individus. Et malheureusement, il y a aussi un poisson très très cher dont la vessie natatoire se vend au prix de la cocaïne, qui s'appelle le totoabas. Et donc, il y a énormément de braconnage pour trouver les vessies natatoires, parce qu'il y a un marché en Chine, malheureusement. Des vertus pseudo-aphrodisiaques des vessies natatoires. Et du coup, nous, depuis plusieurs années, on patrouille sur la réserve marine et on confisque les engins de pêche illégaux. Donc on est à plus de 1000 engins de pêche illégaux confisqués. On a la marine mexicaine avec nous, donc certains sont à bord. Par contre, face à nous, on a les cartels mexicains de la drogue, qui sont extrêmement violents.
Oui.
Et donc ça donne lieu à ce genre de scène. Oui.
Il n'y a jamais de blessés dans vos rangs. En tout cas, jusqu'à maintenant, il n'y en a jamais eu.
Alors, il n'y a jamais eu de blessés graves. Il y a un pêcheur qui est mort en fin d'année parce qu'il est rentré en fait dans un de nos bateaux. Mais c'est tout. Sinon, il n'y a pas eu de mort.
Quand on embarque à bord d'un bateau de Sea Shepherd pour ce genre de mission, on signe une décharge, c'est vrai ?
On signe une décharge qui dit que on est prêt à prendre des risques parce que face à nous, on a des gens qui sont qui n'ont pas forcément de limites. Donc il faut être préparé à ça. Oui.
Lamia Essemlali, vous allez nous raconter dans la suite de cette émission des actions que vous menez bien plus près de chez nous, sur les côtes de la métropole, dans la suite de ce temps d'un bivouac, dans le sillage des bateaux de Sea Shepherd.
Souffle sur le pays, très chaudement. Dans un bain de foule dévot, à moitié épaillie. On se mouillait mollement, la glace fondait dans les spritz. C'était à n'y comprendre rien, tout le monde se plaignait en ville du climat subsaharien. On n'avait pas le moral, mais l'on répondait bien à tous les mots, les traits d'esprit. Serveur central. Attraper le Bluetooth. Que savions-nous faire? n'y comprendra rien à la loi nouvelle des éléments qui nous foutaient la frousse. Des poils en même temps, la clarté nous pendait au nez. Dans sa vive lumière bleue, nous étions pris, fait cerner. L'évidence était sous nos yeux comme une publicité qui nous masquait le ciel. Des millions de pixels pleuvaient sur le serveur central.
Nouveau monde, c'était Feu Chatterton sur France Inter, le temps d'un bivouac.
Voilà les pressions, Xavier 202-00, Magui 210-21.
Les plongeurs nous ont indiqué un filet qui continuait à pêcher et qui était abandonné dans les fonds. Donc notre rôle là, c'est d'aller le récupérer, c'est ce qu'on fait dans la région en ce moment.
On a trouvé, il y avait un vieux filet, un petit morceau assez récent, donc on l'a enlevé très rapidement, qu'on a mis dans la poche. Et un filet, celui qu'ils ont refermé tout à l'heure, là on l'a vu aussi.
Le filet signalé est installé dans une zone de pêche autorisée. Cette fois, il ne sera pas décroché. Mais ce n'est pas toujours le cas. Le 29 août dernier, dans le parc national des Calanques, un filet de 500 mètres avait été enlevé par Sea Shepherd. En 15 jours sur la rade de Marseille, 10 filets fantômes ont déjà été retirés.
Extrait d'un reportage de France 3 Provence-Alpes en 2016, des actions menées par l'ONG Sea Shepherd en Méditerranée, au large des côtes françaises. Lamia Essemlali, présidente de l'antenne France de cette ONG, est notre invitée. Vous n'allez pas toujours à l'autre bout du monde, hein. On en prend conscience pour mener vos actions. Il y a aussi à balayer devant notre porte, en quelque sorte.
Ah, tout à fait, surtout que... On est quand même le deuxième empire maritime au monde. Hein. On est le seul pays à être présent sur tous les océans de la planète. Et même sur notre façade métropolitaine, il y a beaucoup à faire.
Et là, en l'occurrence, ce sont des filets fantômes que vous allez enlever. D'où viennent-ils exactement ces filets? Qu'est-ce qu'ils font là?
L'opération, là, c'est l'opération Mare Nostrum en Méditerranée. Donc, les filets fantômes, c'est des filets qui sont perdus ou abandonnés en mer par les pêcheurs. D'après les Nations Unies, c'est plus de 600 000 tonnes par an. Donc, ce sont des filets, en fait, qui continuent à pêcher, à capturer des animaux marins pendant des années, parce que c'est du nylon, ça ne se dégrade pas. Et donc c'est une catastrophe qui s'ajoute à la surpêche et à la pêche illégale.
Et vous participez aussi à des opérations, alors là, l'opération est intitulée Dolphin by Catch, sur les côtes. Alors on est plutôt sur la façade atlantique là.
Alors là en l'occurrence c'est plutôt la façade atlantique, même s'il y a le problème aussi sur la façade méditerranéenne, mais on est confronté à une hécatombe de dauphins sur nos côtes, donc qui sont victimes des engins de pêche, puisque les gens ne se rendent pas compte, mais si on prend juste la flotte française, dans le golfe de Gascogne, on pose à peu près 45 000 km de filets par jour, c'est le tour de la planète, avec des hauteurs qui sont très mal réglementées. Et donc, en fait, on a fait de l'océan un terrain miné. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, les dauphins sont en train de mourir par milliers. Et les scientifiques tirent la sonnette d'alarme depuis des années, mais ils ne sont pas entendus.
Mais on a une idée vraiment du nombre de dauphins qui sont pris dans ces filets involontairement. En fait, ce sont des sortes de dommages collatéraux.
Alors, on parle de capture accidentelle. Nous, on réfute complètement ce terme. D'ailleurs, on va le réfuter sur le terrain juridique. Parce que quelque chose qui est à ce point récurrent, et à ce point prévisible et qui est évitable, ne peut pas être qualifié d'accidentel. Aujourd'hui, on est dans un cas de figure où on a des pêcheurs qui arrivent sur une zone et qui déposent leur filet au milieu des dauphins. Et on se dit, si on capture des dauphins, c'est un accident. Ça n'est pas accidentel. Les dauphins sont effectivement des victimes collatérales consenties. Ils sont sacrifiés au secteur de la pêche.
Oui. Alors, quel type d'action vous menez? Parce que là, on est dans la légalité ou pas avec
Alors,
ces prises...
là, la problématique, c'est que les dauphins sont une espèce protégée et la France a des engagements, des responsabilités. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a réussi à faire condamner l'État français au tribunal administratif en juillet dernier. Et la France a été mise en demeure par la Commission européenne pour prendre des mesures d'urgence pour enrayer l'hécatombe de dauphins parce qu'on est en train de décimer cette population. Donc, techniquement, la pêche est légale. Maintenant, la France fait défaut à ses responsabilités puisqu'elle doit prendre les mesures pour empêcher ces captures.
Quel genre de mesures, alors, vous préconisez?
Alors, les mesures qui sont recommandées par les scientifiques et que nous appuyons et que nous réclamons, c'est la fermeture spatio-temporelle de certaines zones particulièrement sensibles et c'est l'installation de caméras à bord des bateaux. Mais des caméras obligatoires. Ça se pratique en Australie et c'est extrêmement efficace. Aujourd'hui, on a une ministre de la mer qui se comporte vraiment comme une ministre de la pêche, qui a refusé de suivre les recommandations des scientifiques. Et là, cette année, on est en train d'assister à une saison absolument catastrophique, encore pire que les années précédentes. C'est ce qui justifie aussi l'opération qu'on a fait en début de semaine devant l'Assemblée nationale.
Donc là, ce sont des opérations, je ne sais pas si le terme vous conviendra, mais coup de poing. En tout cas, vous voulez frapper l'opinion publique.
On a besoin d'éveiller les gens à ce qui se passe.
Qu'est-ce que vous avez fait devant l'Assemblée nationale?
On a exposé quatre cadavres de dauphins qui ont été retrouvés par nos équipes, sur les 17 qui ont été retrouvés sur la même journée, sur une portion de plage. 17 dauphins, un phoque, une tortue marine, deux oiseaux marins. Donc, on a pris 4 dauphins frais et on les a déposés devant... Je dis frais parce que quand ils sont putréfiés, on les prend pas. Et on les a déposés devant l'Assemblée nationale pour interpeller la ministre, mais aussi le gouvernement. Il faut qu'on se saisisse de cette question et on ne peut pas se satisfaire de ce que la ministre nous propose aujourd'hui. Elle s'est battue corps et âme pour défendre les intérêts des pêcheurs dans le contexte du Brexit et elle l'a fait avec brio, et on attend d'elle qu'elle ait la même énergie et la même volonté à défendre la vie marine dont elle est aussi responsable.
Comment vous êtes perçu par les pêcheurs, l'organisation Sea Shepherd?
Alors, on ne peut pas parler des pêcheurs au sens large. Il y a plusieurs sortes de pêcheurs. Il y a énormément de pêcheurs qui nous soutiennent, qui nous donnent d'ailleurs des informations. La plupart de nos informations sensibles, on les tient de pêcheurs qui sont eux-mêmes témoins de ce qui se passe et qui n'en peuvent plus, mais qui n'osent pas parler. Il y a un climat quasi mafieux dans le secteur de la pêche. Et ceux qui ont intérêt à ce que les choses ne se sachent pas intimident énormément les plus petits. Par exemple, on connaît des petits pêcheurs qui nous disent « Mais nous, on n'a aucun problème à ce qu'on mette des caméras sur nos bateaux. » Le problème, c'est que si on dit ça publiquement, ils nous brûlent nos bateaux. Donc c'est à l'État de faire en sorte que ce ne soit plus la loi du plus fort qui règne. Cette transparence sur le secteur de la pêche, on la doit non seulement aux citoyens, mais on la doit aussi aux pêcheurs les plus vertueux qui sont finalement victimes des pêcheurs qui se comportent comme des voyous et qui aujourd'hui sont défendus et soutenus par les comités des pêches.
Je vous propose, Lamia Essemlali, d'écouter la voix d'un écrivain que vous appréciez, Romain Gary, qui a beaucoup écrit en faveur de la protection animale. En 1973, il revenait sur France Culture sur les résultats d'une longue enquête qu'il avait réalisée pour Time Life sur les animaux en voie de disparition.
Au cours de mon enquête, j'ai vu de véritables horreurs. Vous savez, nous nous conduisons, les chasseurs soviétiques, canadiens, se conduisent comme les derniers, des salauds. Il n'y a pas d'autre mot. Avec l'appui officiel de leur gouvernement, l'extermination des baleines est une monstruosité absolument, excusez-moi encore une fois d'employer les mots, il n'y a pas d'autre mot, c'est dégueulasse. C'est absolument dégueulasse. Et l'extermination des espèces... à l'heure actuelle, à mon avis, est une preuve irréfutable de la condamnation de l'humanité à la disparition par ses propres faits. Lisez les enquêtes de Cousteau là-dessus. Nous nous conduisons comme d'abominables babouins imbéciles et criminels envers le milieu dans lequel nous vivons. Dans quelques années, dans 10 ans, la Méditerranée sera une main morte. Et je vous dis que le processus est irréversible. Enfin, on peut encore peut-être retarder le processus, mais au moins d'une reconversion de la civilisation, et de la création d'une civilisation nouvelle, et vous savez combien c'est peu probable, la Méditerranée, c'est foutu.
Nous étions en 1973, l'ami Essem Lali, les choses ont malheureusement pas beaucoup changé ou pas tellement dans l'amélioration.
Il a tellement raison, mais depuis qu'il a prononcé ces mots, on a exterminé plus de 60% de la vie sauvage. Et c'est vrai que Romain Gary est un visionnaire. Moi j'aime beaucoup une phrase de lui qui, à mon sens, résume à peu près tout ça. Il dit que dans un monde où il n'y a de la place que pour l'homme, il n'y a plus de place même pour l'homme. Voilà, il faut qu'on apprenne à partager avec le reste du vivant, sinon on va disparaître avec lui.
Quelles seraient, selon vous, les mesures les plus urgentes à prendre pour sauver la vie des océans ?
Il faut absolument réformer la pêche. Aujourd'hui, la première menace qui pèse sur l'océan, ça n'est pas la pollution, ça n'est pas le changement climatique, même si ce sont des menaces importantes, c'est la pêche. C'est la surpêche, c'est notre surconsommation de poissons, c'est le fait qu'on a fait de l'océan un terrain miné. Ça se passe loin des yeux et loin des consciences. Et donc aujourd'hui, quand on consomme du poisson, on ne se rend absolument pas compte de l'impact que ça a sur l'océan, dont, encore une fois, nous dépendons tous.
Vous pensez qu'il ne faut plus manger du tout de poisson, ou alors qu'il faut réduire sa consommation de poissons ?
Je pense qu'il y a assez de poissons dans l'océan pour nourrir ceux qui en ont vraiment besoin. C'est une minorité des gens. La majeure partie des gens peut très bien se passer de poissons. Donc réduire drastiquement sa consommation de poissons, c'est le minimum vital. L'arrêter totalement, c'est le meilleur service qu'on puisse rendre à l'océan.
Merci Lamia Essem Lali. Pour en savoir plus sur votre action, on peut aller sur votre site internet seashepherd.fr. Je signale aussi ce livre que vous avez écrit aux éditions HarperCollins, Paul Watson, Sea Shepherd, le combat d'une vie. Et puis vous signez aussi la préface du dernier ouvrage de Paul Watson, Urgence, aux éditions Glénat. Merci à vous. Dans un instant, nous allons nous balader dans la presqu'île du Cotentin avec un photographe amoureux fou du lieu, Arnaud Guérin.
I'm not your friend or anything, damn. You think that you're the man, I think therefore I am. I'm not your friend or anything, damn. You think that you're the man, I think therefore I am.
Stop. What the hell are you talking about?
Get my pretty name out of your mouth. We are not the same with or without. Talk about me like how you might know how I feel. Top of the world, but your world isn't real. It wasn't ideal. So go have fun. I really couldn't care less, and you can give it my best, but just know I'm not your friend or anything, damn. To put your name next to mine, we're on different lines. So I wanna be nice enough, they don't call my bluff, cause I hate to find articles, articles, articles. Rather you remain unremarkable. Got a lot of interviews, interviews, interviews. When they say your name, I just act confused.
Did you have fun? I really couldn't care less, and you couldn't give them my best, but just know
I'm not your friend or anything, damn.
C'était Therefore I Am de Billy Eilish sur France Inter. Et la programmation musicale de cette émission est signée Muriel Pérez.
Sur France Inter, le temps d'un bivouac. Daniel Fievé.
C'est incroyable. On est où exactement ici?
Là, c'est à la pointe de la Hague, c'est-à-dire une presqu'île dans une presqu'île. T'es au bout du bout.
L'Angleterre, c'est par là?
Exactement.
Si je continue le sentier, il va où?
Tu peux aller jusqu'au Mont-Saint-Michel, par là. Quand on fait visiter la Hague, on commence par le sentier côtier. Ça nous donne un aperçu tellement puissant des possibilités de paysage, de la palette de couleurs qu'il y a dans la région. Ça nous transcende à chaque fois qu'on vient. On a beaucoup voyagé, on a quitté la région plusieurs années, on est allé vraiment sur plein de continents, plein de pays. À chaque fois qu'on revient, on se dit c'est incroyable quoi.
On commence un peu à se balader?
C'est parti.
Et oui, allons nous balader. C'est Simon Cervantes qui lançait l'invitation. C'est un guide subjugué par les paysages de la Hague. Nous étions dans le Cotentin, donc, sur France 3 Normandie. Et nous aussi, nous allons faire un tour avec pour guide Arnaud Guérin. Bonjour Arnaud.
Bonjour Daniel.
Vous êtes photographe et vous venez de publier aux éditions Ouest France Le Cotentin rencontre entre terre, ciel et mer de Utah Beach à Granville. Un livre de photographie, mais pas seulement, puisque vous y donnez la parole à des amoureux du Cotentin qui y sont nés ou qui s'y sont installés avec des profils très différents. On a un éleveur, une surfeuse, une chanteuse lyrique ou un écrivain. Tous partagent avec vous un attachement profond à cette presqu'île du Cotentin. Pour vous, Arnaud Guérin, qui êtes allé dans des lieux sublimes, lointains, l'Islande, la Nouvelle-Zélande, le Cotentin est une terre ensorcelante qui ne cesse de vous émerveiller. Alors pourquoi ce Cotentin vous ensorcelle-t-il tant?
Ben vous savez, il y a des lieux qui vous frappent, j'allais dire qui vous sidèrent. Et en fait, on peut aller les chercher à l'autre bout de la planète. Et j'ai la chance de beaucoup voyager. Mais le Cotentin, pour moi, c'est mon plus beau pays du monde. C'est-à-dire, c'est un pays de proximité, c'est un pays de contraste, c'est un pays de lumière, c'est un pays de nature. Et tout ça est réuni dans un lieu qui est une presqu'île. Et comme le disait le guide tout à l'heure, c'est un bout du monde extraordinaire pour moi.
Ouais. Avec des lumières qui vous rappellent les lumières boréales que vous avez pu contempler plus loin.
Exactement. Il suffit de passer les marais du Cotentin là, et d'un seul coup, on arrive sur cette presqu'île et la lumière change du tout au tout. Cette lumière, elle est transparente, translucide. Elle est extrêmement violente, comme on peut l'avoir dans mon pays d'adoption qui est l'Islande, ou aux îles Féroé, ou en Écosse. On a ces lumières avec ces roches, avec ces lichens, avec ce bord de mer. Et puis c'est une presqu'île, donc on a la mer des trois côtés et c'est vraiment ce qui fait sa caractère.
Ouais, ce sentiment de Finistère au sens premier du terme, de fin de terre.
Exactement, vraiment. On a. D'ailleurs, on dit toujours qu'on monte dans le Cotentin. On monte dans ce Nord Cotentin, et puis au bout du bout, il y a ce pays qui s'appelle la Hague. On passe une ancienne levée de terre néolithique là qui s'appelle le Hagdic, et tout au bout, il y a ce cap avec ce phare. Et puis à chaque fois, il y a quelque chose de subjugant parce que derrière, il y a d'autres terres qui s'appellent les îles anglo-normandes. Et puis devant, il y a le plus grand courant d'Europe. Le Raz Blanchard, c'est une province maritime fantastique.
Ouais, le plus grand courant d'Europe, c'est aussi là qu'on a les plus grandes marées, hein.
Exactement. La marée dans le Cotentin, ça joue tout. Les gens regardent pas leur montre, hein. Ils regardent le niveau de la mer dans le port. et c'est vrai que ça règle la vie pour tout, parce que encore une fois, on a la mer des trois côtés. On peut aller voir le lever de soleil le matin sur la côte est et finir le soir sur la côte ouest avec le coucher de soleil. C'est absolument fantastique.
Parmi les amoureux du Cotentin que vous êtes allé interviewer, Arnaud Guérin, pour votre ouvrage, il y a l'écrivain Didier Decoing. Il vous raconte sa découverte du Cotentin lorsqu'il était enfant et la révélation que ça a été pour lui. Il a découvert ce jour-là, c'est ce qu'il dit, la mer telle qu'elle était dans les livres de pirates. Il vous dit c'est comme si j'étais entré dans un roman de Jules Verne ou de Stevenson.
Exactement. Et en fait, on se connaissait pas avec Didier Decoing et en fait, on partage exactement la même chose. Moi, je suis né dans le pays d'Auge à Deauville et j'allais à la mer, mais cette mer, c'est une mer relativement plate, peu agitée. Et la première fois que je suis arrivé, je me rappelle, j'étais gamin dans le Cotentin. Je suis arrivé face à cet océan, cette ouverture océanique, et d'un seul coup, c'est cette espèce de grande respiration. C'est la mer, voilà, qu'on lit dans Typhon de Joseph Conrad. C'est vraiment l'océan avec tout ce que ça a. Et dans le livre, Didier Decoing le dit. Léa, qui est notre surfeuse, là, témoigne de cette houle, de cette respiration atlantique qui est extrêmement forte.
Ouais, Léa Brassy, qui elle a appris à surfer, a fait ses débuts de surfeuse sur cette côte du Cotentin.
Exactement. J'allais dire, le Cotentin, ça exauce le goût de la vie. C'est-à-dire que, en fait, toutes les sensations qu'on a ailleurs, là, dans le Cotentin, on les a puissance 10. Ouais. On est confronté à une nature qui est une nature sauvage, avec une météo qui est extrêmement changeante, et puis un accueil des gens qui est formidable. Au départ, un petit peu froid parce qu'on est un peu scandinave, mais qui est extrêmement chaleureux. Et quand on est amis pour la vie dans le Cotentin.
Ouais. À la chanteuse lyrique Mathilde Legrand, vous lui demandez quelle est pour elle la signature sonore du Cotentin. Elle vous parle du vent, du bruit dans les herbes, du ressac. Pour vous, c'est quoi la signature sonore du Cotentin, Arnaud Guérin ?
Pour moi, c'est le ressac, parce que c'est quelque chose qui est présent partout, presque en bruit de fond, quand on est sur les hauteurs du Val-de-Serre, dans ce bocage, parce que le Cotentin, c'est aussi un morceau de Normandie, c'est presque une île, hein, ouais. et d'un seul coup, on commence à voir la mer et on a toujours cette rumeur dans le fond, et dès qu'on arrive sur le chemin des douaniers, sur le littoral, d'un seul coup, on a cette puissance sonore et ces variations qui sont fantastiques.
Mais c'est vrai qu'il y a aussi ces prés entourés de petits talus, d'arbres, de haies, cette région de bocage. C'est une région maritime ou rurale pour décrire ce Cotentin finalement ?
Les deux, mon capitaine, puisque ouais. C'est peut-être ben oui, peut-être ben non, hein. Vous savez, on est vraiment au cœur de la Normandie. C'est le département français où il y a le moins de forêts et c'est le département français où il y a le plus de linéaires de haies. Mmh. En fait, les forêts, on les a dans nos haies, dans nos talus qui séparent les petits de petits champs avec un terroir extrêmement gras, ouais. et toujours avec une vue sur la mer. C'est-à-dire que les vaches normandes, quand elles font du beurre d'Isigny ou de la crème d'Isigny, là, elles regardent et elles ont vue ouais. sur mer.
Ah oui, vous nous emmenez dans la gastronomie, mais c'est vrai que vous vous intéressez aussi au goût du Cotentin, avec ouais. une question que vous posez à tous vos interlocuteurs. Vous leur demandez s'ils préfèrent les huîtres ou les bulots. Pourquoi cette question ?
C'est une question de religion dans le Cotentin, j'allais dire, parce que en fait, vous savez, le bulot, c'est si vous posez la question à des gens dans la rue, ils vous disent, ben cette espèce d'escargot de mer, c'est un peu dégoûtant à manger, etc. Et en fait, l'ensemble des gens que je suis allé rencontrer, 90% m'ont dit bulot sans hésitation. C'est vraiment une signature, c'est une question de religion. L'huître, elle est arrivée après. C'est quelque chose qui a été l'ostréiculture, c'est arrivé assez récemment. Et c'est un petit peu l'aristocrate. C'est réservé au moment de fête, etc. Ouais. Le bulot, c'est vraiment tous les jours avec un petit peu de mayonnaise maison. C'est ouais. fabuleux.
Et puisqu'on est à table, hein, vous avez aussi rencontré le chroniqueur de François-Régis Gaudry, Dominique Hutin, grand amoureux du Cotentin où il vit. Et lui, il vous parle du cidre du Cotentin.
Alors là, il est intarissable. Hein. Il pourrait faire une encyclopédie parce que et encore une fois, c'est une question de sensation parce que vous lirez son texte. C'est absolument extraordinaire. C'est une rencontre, une balade en moto. Encore une fois, c'est une confrontation. Et le Cotentin, c'est ça. Mmh. On cherche souvent des bouts du monde. On cherche souvent des ailleurs extraordinaires. Et le Cotentin, ben, c'est un ailleurs extraordinaire, sauf que c'est juste à côté, c'est une destination de proximité. Et une fois qu'on y est allé, on a juste envie, c'est de revenir.
Ouais, et puis l'éleveur Nicolas Onfroy vous dit, lui, le côté qu'il aime tout particulièrement, c'est la Hague. Il a l'impression de voyager en Irlande. Vous, en quelques mots, c'est quoi votre coin préféré du Cotentin, votre endroit secret, Arnaud Guérin ?
Ah, j'ai un endroit qui est vraiment un endroit secret. Alors je sais pas si je dois vous le dire, mais ouais. c'est juste à l'est de Cherbourg, une anse qui s'appelle l'anse du Bric, ouais. Où on peut aller surfer quand la houle vient de l'est. C'est un endroit magnifique et surtout il y a un chemin de randonnée. Il suffit de partir et de marcher 50 mètres dans l'arrière-pays et d'un seul coup vous êtes sur le bord d'une rivière qui s'appelle le Nid du Corps avec des truites fario qui remontent. Et vous êtes dans une haie très 100 mètres après vous êtes dans un paysage de montagne avec un chemin extrêmement escarpé. Et puis 500 mètres plus loin, vous êtes à 100 mètres d'altitude sur des landes littorales avec des bruyères et une vue qui est presque méditerranéenne. Il y a des pins. Le Cotentin, c'est ça. C'est une diversité absolument sublime et c'est ce qui fait vraiment son charme.
Merci Arnaud Guérin. Je rappelle le titre de ce livre avec vos superbes photos et puis les textes de vos interviews. Le Cotentin, rencontre entre terre, ciel et mer, de Uta Beach à Granville, aux éditions Ouest France. Merci Arnaud Guérin.
Merci à vous.
Pour réécouter cette émission, il y a le podcast et puis pour nous laisser un message, rendez-vous sur la page Facebook du Temps d'un Bivouac ou la page de l'émission sur franceinter.fr. À samedi prochain pour de nouvelles aventures.